Radio PGDG.
Le son de ton lycée.
Aujourd'hui, mardi 21 mars, nous accueillerons la classe de seconde 4. Dans cette édition, nous mettrons en avant la semaine de la presse à travers différents thèmes. Sur le thème du monde, Inès, Solène, Léa et Clément nous parleront du salaire en Europe et l'attaque d'Orly. En politique, Margot, Kisha et Laura et Jeanne commenteront le débat politique sur TF1 ainsi que le sujet des jeunes et la politique. En sport, Charlotte, Léo, Sabrina et Amélie parleront de l'ambition de Parker et du biathlon. Dans la rubrique culture, Loan, Quentin, Erwan et Anna parleront d'une exposition au Centre Pompidou et des sorties au cinéma. Pour terminer sur le thème de la semaine de la presse, Célian, Chloé, Lou et Raissa nous expliqueront d'où vient l'information et l'impact des jeunes sur les réseaux sociaux.
Bonjour à tous, aujourd'hui dans la catégorie monde, nous allons parler des différents salaires en Europe.
Avant et pendant la crise, les salaires en Europe n'ont ni augmenté ni diminué. Durant cette période, l'inflation n'a pas changé non plus. Pendant la crise, l'Allemagne, la Pologne et la Bulgarie ont décidé de continuer à augmenter leurs salaires, malgré la stagnation de l'inflation. La population de ces trois pays a donc eu un pouvoir d'achat plus élevé, ce qui a permis aux pays en question de continuer à se développer économiquement malgré la crise. Les salaires entre 2009 et 2016 en Allemagne ont augmenté de 1%, en Pologne de 2% et en Bulgarie de 6%.
Cependant, la Grèce a décidé d'agir inversement, en diminuant leur salaire de 3,1%. La population s'est donc retrouvée dans une situation délicate en ayant un pouvoir d'achat très très faible. D'autres pays comme le Royaume-Uni et l'Italie ont décidé de faire pareil, mais la diminution était inférieure à 1%. Les salaires de l'Irlande et des Pays-Bas ont continué d'augmenter, mais beaucoup moins qu'avant. On remarque que dans les salaires français, l'augmentation est restée la même pour rester dans la compétitivité avec l'inflation.
En moyenne, les salaires en Europe étant plus faibles, donc le pouvoir d'achat était moins fort et les gens consommaient moins.
Pour réaugmenter la croissance, l'Europe pousse les gens à la consommation et les pays à la vente. C'est terminé pour nous, au revoir à tous.
Ce samedi matin, il est 7h30 lorsque Lucien prend sa pause. À l'aéroport d'Orly, une demi-heure plus tard, il est témoin de l'attaque de Zayed Belgacem, 39 ans, sur une militaire de la force Sentinelle. Ce dernier va nous raconter ce qu'il a vécu lors de cette attaque. Bonjour Lucien et bienvenue. Alors dites-nous comment vous êtes retrouvé face à l'attaque terroriste.
Je suis agent de piste et bagagiste depuis un an et demi à l'aéroport d'Orly. Je commence tôt le matin. Ce samedi, j'ai pris une pause à 7h30 après m'être assis une demi-heure dans une salle d'attente. Je me suis dirigé vers le stand de boulangerie où je vais toujours acheter mon déjeuner. J'étais en chemin lorsque j'ai entendu des hommes crier « bouge pas, bouge pas ». J'ai levé la tête et vu un individu qui essayait de s'emparer de l'arme d'une femme militaire. Ses collègues tenaient l'homme en joue en lui hurlant de ne plus bouger, mais le type continuait. La militaire est tombée au sol.
Comment avez-vous réagi suite à cette situation ?
J'ai tout de suite fait demi-tour, je venais de me retourner quand j'ai entendu des détonations. Là, je me suis mis à courir en criant à tous les gens qui arrivaient en face de moi, ça tire, n'y allez pas. On s'est tous mis à courir vers la sortie, j'ai croisé du personnel de l'aéroport que j'ai mis au courant de ce qui venait de se passer, même si je ne savais pas exactement ce qui se déroulait. J'ai aidé à faire évacuer les gens qui se trouvaient là. Il y a eu un mouvement de panique.
Comment vous vous sentez à l'idée de revenir à votre travail ?
Aujourd'hui, je vais bien, je savais que quelque chose comme ça pouvait se passer. On a bien vu que les aéroports ou les gares sont ciblés par des gens qui cherchent à faire le plus de victimes possible. Je me suis toujours dit que tout pouvait arriver. Il faut se mettre ça dans la tête, on n'est jamais en sécurité nulle part. Il faut se préparer à toute éventualité.
Cela a dû être éprouvant pour vous et les autres. Merci de nous avoir prêté votre attention.
Présidentielle sur TF1 le 20 mars 2017. Enfin, début de campagne. Jusqu'ici, la présidentielle 2017 n'avait pas vraiment commencé. Les cinq candidats ont mis du temps à entrer dans le match. Benoît Hamon, qui représente le Parti Socialiste, Jean-Luc Mélenchon, la gauche, Emmanuel Macron, qui lui se revendique ni de gauche ni de droite, François Fillon représente la droite et enfin Marine Le Pen représente l'extrême droite. Le débat d'hier soir était d'une qualité indiscutable. C'est François Fillon qui se distingue d'abord en regrettant le côté pas très démocratique de ce format à 5 et non pas à 11 candidats. Pour débuter dans ce débat inédit, dans l'histoire de la 5ème République, les 5 candidats présents ont présenté leurs objectifs. Marine Le Pen propose une rupture nationaliste, xénophobe et anti-européenne. François Fillon, quant à lui, défend un projet libéral et conservateur qui réveille la manne de Margaret Thatcher. Emmanuel Macron professe un centrisme rajeuni fondé sur une politique sociale libérale assumée. Et enfin, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon proposent une rupture sociale écologique appuyée sur une relance vigoureuse de la consommation et donc de la croissance. Aucune pitié n'a été faite pendant ce long débat. Et c'est la candidate du Front National qui s'est retrouvée au cœur des premières attaques de ses quatre adversaires. François Fillon commence et l'attaque en disant que son programme, c'est le programme de la gauche en 1981. Benoît Hamon lui renvoie la balle en lui disant « Vous êtes très fort en soustraction, moins en addition, sauf quand il s'agit de l'argent de votre famille. » Ce débat télévisé, dont la disposition des pupitres placés en cercle et le décor noir et blanc, ressemblant à un amphithéâtre ou encore à une boîte de nuit, aura été une arène de pique.
Sans transition, parlons maintenant de la colère des petits candidats aux élections présidentielles qui n'ont pas été invités au débat télévisé.
La colère des petits candidats, exclus du premier grand rendez-vous politique. Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle, Nathalie Arthaud font partie de ceux qui sont furieux de ne pas avoir été invités sur TF1 comme les grands du monde politique et le font savoir. Nicolas Dupont-Aignan, le plus remonté de tous, affirme « Ce n'est pas une chaîne de télévision, quelle que soit sa qualité, qui doit sélectionner en avance les candidats. En effet, sur 11 candidats qui se présentent à l'élection présidentielle 2017, seulement 5 ont eu le privilège de débattre et d'exprimer leurs idéaux devant au moins 10 millions de téléspectateurs. Guillaume Tabar fait un contrepoint et estime qu'il y a deux parties de deux candidats, grands et petits. Éternel dilemme du bulletin présidentiel, les candidats désignés comme petits se plaignant du traitement de faveur supposé réservé aux grands.
La colère des petits candidats exclut du premier grand rendez-vous politique. Le débat présidentiel sur TF1 le 20 mars 2017.
Dans la rubrique politique, je vais interviewer Jeanne sur les jeunes et la politique. Bonjour Jeanne, suivez-vous la politique à la télé ou sur les réseaux sociaux?
Bonjour. Oui, je la suis sans vraiment le vouloir sur les réseaux, car j'observe des posts ou des tweets sur lesquels les personnes débattent entre elles et donnent souvent leur avis et leurs convictions pour un parti politique.
Et pour vous, la politique, c'est quoi?
Pour moi, la politique, c'est pouvoir dire ce qu'on pense en se raccrochant à un parti ou une organisation dont on partage les idées.
D'après votre vision de la politique, si vous étiez président, que changeriez-vous?
Je commencerai par augmenter les salaires modestes pour que les salariés n'aient pas l'impression de travailler uniquement pour payer leurs factures. Et j'œuvrerai à la paix dans les pays en guerre.
Quel impact les débats politiques peuvent avoir sur les électeurs?
Personnellement, je ne regarde pas les débats, mais je pense que les gens en âge de voter ont le droit d'avoir une idée sur la personne qu'ils vont élire pour les représenter.
Comment un jeune lycéen peut s'impliquer dans la vie politique d'aujourd'hui?
Un jeune lycéen peut s'abonner à un magazine qui a un parti politique spécifique, s'abonner à un compte sur les réseaux qui informe sur le parti, faire du porte-à-porte pour défendre ses idées, participer à des manifestations, ou encore coller des affiches pour représenter le parti choisi.
Merci beaucoup, Jeanne. Bonjour, nous allons aujourd'hui parler principalement de sport, plus particulièrement de basket et de l'association sportive de Villeurbanne Éveil Lyonnais.
Tony Parker, lors de la Ligue des champions du 21 mars 2017 à Lyon, se voit monter d'un cran et jouer à l'Eurocoupe l'an prochain. En effet, Tony Parker a semé le trouble la semaine dernière. Sur l'antenne de RMC, le propriétaire et président de l'ASVEL, championne de France en titre, s'est d'une certaine manière invité l'année prochaine en Eurocoupe à laquelle les clubs hexagonaux avait dû renoncer cette année sur injonction de la Fédération française.
Il n'y aura cependant pas d'Euroleague avant 2018. Pour la première fois, la France est privée de cette saison de participation à l'épreuve européenne en raison de moyens financiers. Depuis plusieurs mois, Tony Parker était très clair pour son club, l'ASVEL devait être présente sur les meilleures compétitions européennes. Si disputer l'Euroleague n'était pas encore envisageable, le patron du club Villeurbanne a été clair lors de son passage dans l'émission Basket Time sur RMC, en affirmant que le champion de France en titre serait en Eurocoupe l'an prochain. Cependant, cette annonce demande encore à être confirmée de manière officielle. Et si cela venait à l'être, on ne sait pas encore quelle équipe pourrait obtenir le deuxième ticket, un club français, car les critères d'attribution ne sont pas encore connus.
Tout n'est pas simple pour l'ASVEL. En effet, ils auraient pu espérer un tirage plus clément, car le Monaco espagnol fait trembler toute la Liga depuis le début de la saison. Les champions de France, premiers de leur groupe au bout de 14 rencontres, n'ont pas été gâtés par le tirage au sort intégral du quart de finale. Le coach de l'ASVEL rêve toujours d'un Final Four qui se passera du 28 au 30 avril, que son club envisagera d'accueillir en cas de qualification. Quant au match du quart de finale, il y aura aujourd'hui à 18h la Turquie face à l'Allemagne et à 20h30 l'ASVEL contre l'Espagne. Et enfin pour demain à 18h la Turquie contre l'Italie et ensuite à 20h30 Monaco vs l'Italie.
Aujourd'hui dans la rubrique sport, nous allons interviewer la femme du célèbre biathlète Martin Fourcade. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Nous sommes ici pour parler de votre mari Martin Fourcade, ce sportif qui a marqué cette saison 2017 de biathlon. La question que tout le monde se pose est, sera-t-il présent la saison prochaine ?
Alors oui, Martin ne compte pas s'arrêter là, il pense disposer encore d'une belle marge de progression. Il compte revenir encore plus fort l'hiver prochain, où il défendra ses deux titres olympiques à Pyeongchang.
Après un hiver 2016 déjà exceptionnel, 14 médailles d'or et une d'argent aux mondiaux, il enchaîne cette saison avec 22 podiums, dont 14 victoires en 26 courses. Est-ce que ces résultats traduisent-ils une progression du biathlète ?
Mon mari dit qu'il n'y a pas de raison de penser que tous ses rivaux se sont écroulés en même temps, donc que c'est bien lui qui a élevé son niveau. Il a progressé physiquement, en régularité, en puissance et au tir où il est plus complet et plus rapide au coucher.
Progresse-t-il encore sur les skis à 28 ans ?
Oh, il n'y a vraiment pas l'impression d'avoir atteint ses limites. Il a envie d'aller chercher les petits détails et il a toujours aussi envie de rester le meilleur. Sa phrase à lui, c'est « En sport, garder le même niveau, c'est déjà regresser. » C'est ce que j'approuve.
Martin dit qu'aujourd'hui, certains grands champions ne sont plus à leur meilleur niveau, parce qu'ils ont inconsciemment accepté de ne plus être les meilleurs. Se trouve-t-il dans la même situation ?
Non, seulement ces champions n'ont plus cette flamme qui brûle au fond d'eux, alors que Martin l'a encore et l'aura encore l'an prochain. Mais il y a une grosse chance qu'il arrête après les JO 2018, dans le sens où cette flamme est de plus en plus difficile à allumer.
Merci d'avoir répondu à ces questions.
Merci à vous.
Radio PGDG.
Le son de ton lycée.
Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une émission consacrée à l'exposition de Joseph Koudelka au Centre Pompidou du 22 février au 22 mai, où on y retrouve 75 tirages inédits de sa série la plus célèbre, Exil. Les œuvres présentées ici font transparaître un côté de la personnalité vagabonde et indépendante de Joseph, qui est très singulière.
Joseph Koudelka est né en 1938 à Boskoui, en Tchécoslovaquie, puis il a emménagé à Paris, où il vient y exercer sa vocation. Il est rendu célèbre par sa série Exil pour le livre de Robert Delpierre. L'Exil est le nom de la série de photos, mais on peut se demander pourquoi a-t-il choisi ce nom-là. Comme Joseph est un homme solitaire, il est en sorte d'exil continuel et il voyage beaucoup, donc le nom d'Exil prend son sens. Pour finir, je pense qu'il est important d'aller voir cette exposition pour la culture générale.
Bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique Culture Nationale. Aujourd'hui, le sujet sera le film Kong. Alors, tout d'abord, le film Kong, Skull Island, est numéro 1 du box-office en France devant Logan. Nous avons donc décidé d'accueillir Jordan Vogt-Roberts, le réalisateur, sur le plateau. Bienvenue, monsieur Vogt-Roberts. Vous savez sûrement pourquoi vous êtes ici. Merci à vous d'ailleurs. C'est au sujet de votre premier long métrage à budget élevé, Kong. Pouvez-vous nous faire un résumé rapide ?
Oh, bien sûr. Alors, un groupe d'explorateurs se rend sur Skull Island, donc l'île du crâne, pour trouver la preuve que les monstres sont réels. Donc en fait, ils veulent nous ramener des monstres, vous voyez, hein. Et ils vont trouver, ils vont tomber sur Kong, en fait. Voilà. S'ensuit une chasse aux gorilles, mais sur cette île, les chasseurs deviennent les proies.
D'accord. Êtes-vous satisfait de votre film ? Quels en sont, pour vous, les points forts ?
Oui, je suis effectivement satisfait de mon film et je pense que les amateurs du film des monstres vont apprécier parce que je crois avoir réussi à retranscrire une image horrifique, imposante et malgré tout sensible du monstre.
Très bien, et quelles ont été vos ou votre sources d'inspiration ?
Je me suis beaucoup inspiré des films sur le Vietnam, comme Apocalypse Now ou encore Platoon. Mais pas seulement, je me suis aussi inspiré beaucoup des jeux vidéo, des FPS, des first person shooters, pour rendre plus vivant la mise en scène. Par exemple, les plans où on voit les armes, vous voyez ? Une vue du personnage. Voilà.
Pour finir, quel projet avez-vous pour la suite ?
J'ai été contacté par Hideo Kojima pour adapter son jeu vidéo Metal Gear. Après, à part ça, rien de spécial. Donc voilà.
Pour l'adapter en long métrage, donc. Eh bien, merci à vous, monsieur Vogt-Roberts, pour ces précisions sur votre parcours, mais surtout sur votre film.
Ah, merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Radio PGDG.
Le son de ton lycée.
À l'occasion de la semaine de la presse, les établissements scolaires ont dû fournir un travail sur ce thème. Le nôtre était de comprendre d'où provenaient les actualités que l'on nous transmet.
Les journalistes obtiennent leurs informations de plusieurs façons. Certains grâce à l'AFP, Agence France Presse, et certains sont reporters. Ils vont chercher l'information directement sur place. Lorsqu'il s'agit de chiffres pour illustrer des statistiques, c'est l'INSEE qui s'en charge.
La plupart du temps, un journaliste se sert de plusieurs supports, ce qui lui permet de vérifier à partir de plusieurs sources la véracité d'une information. C'est ce qu'on appelle le recoupement des sources. Mais il peut arriver qu'il n'y ait que très peu de sources, voire qu'une seule. Dans ce cas, il doit s'assurer de sa fiabilité.
D'ailleurs, les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter sont très présents dans la vie des gens. Aujourd'hui, on y apprend de nombreuses choses concernant l'actualité, mais elles ne sont pas toujours fiables. Bien qu'elles soient devenues des outils de travail pour les journalistes et les agenciers, ils leur servent d'alerte et de source d'information ou les aident à collecter des photos et vidéos.
À l'occasion de la semaine de la presse, je vais interroger Chuck qui nous donne son avis sur la question de l'utilité des réseaux sociaux pour suivre l'actualité. Bonjour Chuck.
Bonjour Norris.
Utilisez-vous les réseaux sociaux pour suivre l'actualité politique, culturelle et sportive?
Ah oui, bien sûr.
Pensez-vous que c'est fiable?
Ça dépend, mais pour être vraiment sûr, je vérifie les sources car il y a malheureusement souvent des mensonges.
Quel réseau social utilisez-vous le plus?
Ah, moi, j'utilise Twitter.
À quelle fréquence?
Pour environ 1h30 par jour.
Quel genre d'actualité suivez-vous le plus?
Je suis la politique, le sport, à peu près tout, j'aime me sentir informé de tout.
À quel réseau social faites-vous le plus confiance et pourquoi?
Aucun, car tout le réseau contient des mensonges.
Ok, d'accord. Êtes-vous déjà tombé sur des fausses informations et comment en êtes-vous rendu compte?
Oui, comme tout le monde, je pense, et je m'en rends compte en général en vérifiant les sources.
Suivez-vous l'actualité autrement que par les réseaux sociaux?
Oui, je vais sur les sites officiels des journaux comme Le Monde ou Le Figaro par exemple.
Merci, au revoir monsieur Chuck.
Au revoir.